Vous écoutez On lit pour vous.
Pourquoi acheter quand on peut emprunter? Un texte d'Ariane Kroll, paru le 8 septembre 2025 dans la presse. Au lieu d'acheter une tente, sans savoir si vous aimerez le camping ou un outil pour un projet unique, pourquoi ne pas l'emprunter? C'est le réflexe que tente de développer la jeune pousse montréalaise Partage Club avec une application qui facilite les échanges. Il y a quelques années, Jessica Rioux-Turcotte et ses collègues de bureau ont eu l'idée de créer un fichier Excel pour indiquer les outils que chacun était disposé à prêter et pour noter qui emprunte quoi jusqu'à quand. Finalement, très peu de personnes ont entré des objets et ça n'a pas décollé, raconte la Tréfluvienne. L'idée était super, mais l'exécution n'a pas très bien fonctionné. Son expérience avec Partage Club, une application lancée en 2023 pour faciliter le prêt entre résidents d'une ville ou d'un quartier, a été nettement plus fructueuse. Peu après être devenue membre, en mai 2025, elle a emprunté un outil électrique, une ponceuse pour sabler sa terrasse, et a prêté un des siens, un taille-bordure ou weed eater. Ces deux échanges avec des personnes qu'elle ne connaissait pas se sont super bien passés, témoigne-t-elle. L'emprunt a été super simple et le taille-bordure prêté est revenu en bon état, aucun problème. Madame Rioux-Turcotte a pu s'abonner à Partage Club gratuitement grâce à l'entreprise Unirecycle, spécialisée dans le recyclage de matériel électronique, qui a mis 250 abonnements à la disposition des Tréfluviens. Plusieurs villes et organisations québécoises ont ainsi acheté des licences pour les offrir à leurs résidents ou à leur clientèle. C'est le cas de Desjardins qui mène un projet pilote avec 8 caisses populaires. Desjardins a choisi des territoires où le club avait déjà des participants actifs, ce qui maximise les chances de succès, précise son porte-parole Jean-Benoît Turcotti. Si les résultats sont jugés concluants, une extension à d'autres caisses pourrait être envisagée, dit-il. Un réflexe à développer. 2 ans après son lancement, le club compte 43 000 abonnements, dont près de la moitié proviennent de municipalités et d'organismes. L'objectif est d'avoir 60 000 membres d'ici la fin de 2025. Pour qu'il y ait du partage, il faut qu'il y ait une masse critique, mais c'est très cher à aller chercher, surtout quand on est une petite start-up et qu'on n'a pas de budget à mettre sur le marketing, explique Anaïs Magidier, vice-présidente marketing et cofondatrice du club, avec Fauve Doucet. Mais comment convaincre les gens de prêter leurs biens à des inconnus? C'est la question que tout le monde pose d'emblée, admet Madame Magidier. Dans les faits, le club a plus de prêteurs que d'emprunteurs. On ne s'attendait pas à ça. Environ la moitié des membres ont pris le temps d'annoncer des objets qu'ils sont disposés à prêter, constituant un catalogue de plus de 42 000 articles. En revanche, quelques 10% seulement font des emprunts. Le système comprend plusieurs mesures pour faciliter la vie aux prêteurs et leur inspirer confiance. L'appli affiche le profil du membre, recommandations, nombre de partages, délai de réponse, etc. Enregistre les prêts et rappelle la date de retour. Elle cherche les articles désirés dans un rayon de 35 km seulement. Plusieurs membres nous ont indiqué qu'ils ne se sentaient pas à l'aise de prêter leurs objets à des personnes trop éloignées. Et si un objet revient brisé, Partage Club offre un dédommagement pouvant aller jusqu'à 300 $. Le défi est donc de convaincre davantage de membres d'emprunter les articles dont ils ont besoin plutôt que de les acheter. On s'est transformé en anthropologue, dit Anaïs Magidier. On interviewe en moyenne 5 membres par semaine. Plusieurs disent n'avoir besoin de rien, mais quand on creuse, on se rend compte que, dans les derniers mois, ils ont acheté des choses qu'ils auraient pu emprunter, signale Madame Magidier. Elle donne l'exemple d'un adaptateur de prise électrique pour l'Europe. Ce n'est pas seulement 20 $ sur Amazon. C'est tout le cycle de vie du produit jusqu'à ce qu'il se rende chez vous. Le processus d'emprunt est pourtant simple. Il suffit de chercher l'article désiré dans l'application ou, s'il n'y est pas, de publier un besoin. Dans l'ensemble, 70% des prêts proviennent du catalogue et 30% d'une réponse à un besoin exprimé. Des membres disent aussi trouver plus simple d'acheter l'article recherché que d'attendre la réponse d'un prêteur. Pourtant, 80% des besoins affichés sont comblés en moins de 24 heures, assure Madame Magidier. On a compris qu'il fallait stimuler l'imaginaire, montrer aux gens de quoi ils pourraient avoir besoin. Le club met donc l'accent sur les besoins saisonniers, camping, jardinage, déménagement, costumes d'Halloween, etc., sur les réseaux sociaux et dans ses communications aux membres. La jeune pousse explore aussi d'autres terrains. En plus d'inciter au partage de biens, elle lorgne du côté de l'échange de services, une option en test avec la ville de Beaconsfield. Elle cherche également à s'implanter aux États-Unis et en Europe. La ville de Nevers, en France, offrira d'ailleurs le service à partir de l'automne. D'autres options à Montréal, outils au tech, 4 points de service offrant près de 700 objets. Gratuit pour les résidents de Montréal, mais une caution est exigée lors de l'emprunt. La remise, coop à but non lucratif, offrant 2000 objets en location dans 2 succursales. C'était « Pourquoi acheter quand on peut emprunter ?» un texte d'Ariane Kroll, paru le 8 septembre 2025 dans la presse.
Guide du retour vers la lecture, un texte de Chantal Guy, paru le 11 octobre 2025 dans la presse. Vous voulez vous remettre à la lecture, mais vous ne savez pas par où commencer? Suivez ce guide, établi par des professionnels, conseils de lecteurs, de mon libraire et de moi, qui, pour une fois, vous conseille fortement de reproduire ça à la maison, sans aucun danger. La règle des 20 minutes. Lire, c'est un peu comme le vélo, ça ne se perd pas. Mais il faut se donner un peu plus que 10 minutes pour retrouver l'équilibre nécessaire à cette activité. C'est normal au début que l'esprit virevolte dans tous les sens et peine à se poser, surtout si vous venez de passer une heure sur Instagram. Il me faut toujours au moins 20 minutes pour m'ajuster au rythme que demande la lecture soutenue. Rien à voir avec le texte, c'est purement physique et mental. Comme pour les endorphines avec le sport. Et plus j'étire le temps dans les pages, plus je me rends compte qu'il passe vite quand le livre est bon. Créer un environnement propice. Le silence vous angoisse? Mettez de la musique ou allez lire dans le murmure ambiant d'un café. Le silence vous est nécessaire? Trouvez le lieu où personne ne vous dérangera. Faites-vous une tisane ou versez-vous un scotch, Prenez la posture allongée ou assise selon votre confort, peu importe. Ce moment avec un livre est le vôtre et il doit vous convenir. C'est un rendez-vous en tête-à-tête. Une discipline quotidienne. C'est peut-être l'aspect le plus difficile pour qui a perdu l'habitude de lire. Mais vous ne viendrez jamais à bout d'un roman si vous ne l'ouvrez qu'une fois par semaine. Il n'y a qu'une manière de ne pas perdre le fil d'une intrigue, et c'est de ne pas le lâcher. Le mieux est de lire un peu tous les jours. Et pour cela, vous devez trouver votre heure idéale. Ça ne sert à rien de lire au lit le soir si vous êtes fatigué. Votre livre sera condamné à devenir un oreiller. Pourquoi pas le matin après le café ou dans le métro? Dans ce moment creux de la journée où vous tournez en rond sur TikTok? Relisez un de vos livres préférés. Lire, c'est relire, me disait souvent un professeur. Si ça fait longtemps que vous avez lu un livre au complet, pourquoi ne pas revenir à l'exercice avec une valeur sûre? C'est la meilleure façon d'éviter la déception et de revivre de grands moments, de vous rappeler ce que vous a déjà fait un livre. Dune et Duras me font ça. Pour d'autres, c'est Harry Potter. Ce n'est pas pour rien que les enfants adorent qu'on leur raconte encore et encore la même histoire avant d'en désirer une nouvelle. Certaines lectures semblent tout simplement inépuisables. Faites confiance à votre libraire. Olivier Boisvert de la librairie Gallimard à Montréal me confirme que les clients sont plus nombreux qu'avant à lui demander des conseils pour retrouver le goût de lire. C'est l'une des plus belles demandes qu'on peut avoir comme libraire, même si on a l'impression de ne pas avoir droit à l'erreur. C'est un peu leur résurrection à la lecture qu'ils demandent. C'est un enjeu important, vital, et comme ils ont quitté la lecture, c'est difficile pour eux d'exprimer leurs préférences. Quasiment comme un coiffeur, Olivier tente alors de comprendre quelle tête son lecteur pourrait vouloir et l'interroge sur ses séries préférées, par exemple. Quel thème, quel univers le stimule? Il est certain qu'un livre peut prendre le relais et les libraires sont les meilleurs guides pour vous aider. Ils adorent faire ça en plus. Testez la marchandise. Un bon libraire ne va jamais vous faire des reproches si vous lisez dans sa librairie. C'est même une suggestion d'Olivier Boisvert, de la librairie Gallimard. Avant d'acheter un livre, il propose à ses clients de se mettre à l'écart et de lire les premières pages afin de choisir quel style les accroche le plus. Je leur dis, c'est celui dont la langue leur apparaît la plus fluide qui est probablement le bon choix. Ce qui devrait rappeler aux écrivains à quel point l'incipit est important. Laissez-vous influencer par les médias et les influenceurs. Parfois, il suffit d'une bonne entrevue avec un écrivain pour que notre curiosité soit piquée. Plusieurs personnes m'ont confié trouver l'inspiration dans les articles hebdomadaires de la presse, bien sûr, mais aussi dans des émissions comme « Dis-moi ce que tu lis », où il restera toujours la culture à la radio de Radio-Canada ou sur TV5, ce beau rendez-vous qu'est la grande librairie. Les réseaux sociaux regorgent aussi d'influenceurs littéraires, certains très spécialisés dans un genre, capables de parler avec passion de leur lecture et qui nous font prendre des notes. Retournez à la bibliothèque. C'est fâchant d'avoir payé pour un livre qu'on n'aime finalement pas. Voilà pourquoi existent les bibliothèques qui permettent d'emprunter gratuitement des livres en papier ou numérique. Et on peut en emprunter beaucoup, sans aucune obligation de les terminer. Chaque semaine, mon chum va visiter la grande bibliothèque pour emprunter des livres obscurs, souvent introuvables en librairie. Parce que la bibliothèque est peut-être l'une des plus belles inventions de l'humanité. On serait fou de s'en passer. Club de lecture et autres défis. c'est connu, on risque moins d'abandonner le gym quand on y va à deux. Parce que nous avons parfois besoin de nous faire botter le cul ou d'avoir un pacte pour nous motiver. Pour les plus grégaires, les clubs de lecture sont des phares où ils peuvent faire partager leurs impressions d'un livre. Plusieurs personnes m'ont raconté dans leur courriel les défis, parfois pas piqués des vers, qu'elles se lancent entre collègues, amis, parenté. Lire un livre par mois, un roman graphique, une brique de 500 pages, un auteur étranger, un classique, les possibilités sont illimitées et ça stimule notre côté joueur. N'oubliez jamais le plaisir. Vous n'êtes pas obligé de lire les prix Nobel et Goncourt. Dans les fameux droits du lecteur établis par Daniel Pennac, il y a le droit de ne pas finir un livre, le droit de sauter des pages et le droit de lire n'importe quoi. Vous n'êtes plus à l'école. Si ça se trouve, votre salut de lecteur se cache peut-être dans un rayon où vous n'allez jamais. N'hésitez pas à explorer d'autres genres, à lire des essais ou des biographies sur des sujets qui vous intéressent, à choisir des formes qui pourraient mieux vous convenir, comme des recueils de nouvelles ou de poésie. Le but, c'est de plonger dans un livre et d'aimer ça. Rien d'autre. C'était « Guide du retour vers la lecture », un texte de Chantal Guy, paru le 11 octobre 2025 dans La Presse.
Des idées pour aider les garçons. Un texte de Rose-Aimée, Automne T. Morin, paru le 24 septembre 2025 dans La Presse. De quoi les jeunes hommes ont-ils besoin? De repères, croient deux lauréats du concours « Des hommes qui changent ». De repères et de modèles positifs. Chaque année, le concours « Des hommes qui changent » souligne des initiatives d'hommes qui contribuent à l'adoption et à la promotion des masculinités positives au Québec. En ce début d'année scolaire, deux lauréats ont particulièrement retenu mon attention. D'abord, Mohamed Mimoun, qui s'est illustré dans la catégorie « Éducation » avec ses ateliers de cuisine. Puis, l'auteur jeunesse, Pierre-Alexandre Bonin, récompensé dans la catégorie « Arts et influences » pour son roman « Mathéo fait des vagues ». Je les ai réunis pour changer le monde, le temps d'une visioconférence. On l'a bien lu dans ce journal, les jeunes sont exposés à des discours masculinistes en ligne. L'inconfort face à la diversité sexuelle est en hausse. Les garçons ont des enjeux avec la réussite scolaire. Bref, les défis sont nombreux et Mohamed Mimoun ajouterait à cette liste un certain manque d'empathie. Il y a 5 ans, celui qui est coordonnateur et agent de mobilisation au Forum Jeunesse de Saint-Michel, à Montréal, lançait « Samedi pour itinérants », des ateliers lors desquels des jeunes cuisinent pour des personnes en situation d'itinérance. Mohamed Mimoun a été étonné de voir plusieurs garçons s'inscrire et surtout se transformer au fil des semaines. On a compris qu'on pouvait aller chercher autre chose en cuisinant, dit-il. J'ai constaté dans les dernières années qu'il manque d'empathie chez certains jeunes. Ils grandissent dans des milieux durs et n'arrivent pas à exprimer leur empathie, ou même leurs émotions en général. Voir des personnes vulnérables, ça leur permet de penser à leur propre vulnérabilité. L'empathie se développe à travers cette expérience partagée. Et l'expérience n'est pas partagée qu'avec des personnes itinérantes, mais aussi avec des pères. Chaque samedi, une vingtaine de jeunes de 12 à 25 ans viennent cuisiner, que ce soit parce que ça leur tente ou parce qu'ils ont été sommés de faire des travaux communautaires. S'il y a une majorité d'adolescents, il y a également des filles dans le groupe. Et ça jase. Ce sont eux qui choisissent les sujets dont ils parlent, précise Mohamed Mimoun. Souvent, ils vont parler de relations hommes-femmes. Par exemple, pourquoi les chefs garçons sont-ils plus connus que les chefs femmes? Ils vont aussi commenter l'actualité et ce qui se passe dans leur école. Il manque d'espace de dialogue en dehors des réseaux sociaux. Donc, je trouve ça intéressant. Un espace de dialogue, c'est aussi ce que Pierre-Alexandre Bonin voulait créer. Le personnage principal de son roman, Mathéo fait des vagues, entre au cégep et se questionne sur sa place en tant qu'homme. Pierre-Alexandre tenait à dépeindre des comportements problématiques sans automatiquement condamner les protagonistes qui les adoptent. Plutôt que se braquer, il souhaitait qu'un lecteur puisse réfléchir à ses propres agissements et trouver des modèles positifs à travers l'évolution des personnages. Ce que j'espère faire avec mon roman, c'est lancer des discussions au sujet de la masculinité. C'est quoi être un gars aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus cruiser? Ben non. Mais il y a des choses qui ne sont plus acceptées. Et c'est correct. Je voulais qu'on y réfléchisse ensemble. Mohamed Mimoun prend la balle au bond. Lui, il n'a pas le choix d'être plus directif. En plus du projet « Samedi pour itinérants », l'intervenant anime des ateliers de gestion des émotions. Les garçons ont besoin d'avoir un cadre et des lignes rouges, croit-il. Comme tout est dit sur les réseaux sociaux, ils pensent pouvoir dire n'importe quoi. Et je dois leur dire, non, ça ne passe pas. Les réseaux sociaux banalisent certains discours et comportements. Ils sont perdus. Ils ont besoin d'hommes qui peuvent les accompagner et leur montrer ce qui est acceptable. Pierre-Alexandre Bonin hoche vivement la tête. Selon lui, si on ne leur offre pas de modèle, ils se tournent vers l'Internet. Et on ne peut pas les blâmer. Ils ont grandi avec ça. Pour eux, l'Internet a la réponse. Mais en ce moment, la réponse peut venir de masculinistes. Mohamed Mimoun voit un autre problème dans cet attrait du web. Les jeunes sont tout le temps exposés à des histoires de réussite sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas bon à l'école, si tu n'as pas un talent spécial, tu n'es rien. Ce rien est nourri par le système scolaire, la famille et la société. Le jeune se trouve dans un vide qui peut être exploité par d'autres. Le milieu criminel lui donne une deuxième chance de réussite, par exemple. Avec son programme de cuisine, il espère exposer les jeunes à de nouveaux savoirs qui les rendront fiers d'eux. Pierre-Alexandre Bonin remarque que ce qui sous-tend plusieurs des défis que l'on nomme, c'est la difficulté des garçons à demander de l'aide. Alors, comment être un modèle positif pour eux? En s'éduquant, en travaillant sur soi, en dénonçant et en prêchant par l'exemple, disent-ils. Pierre-Alexandre Bonin pense aux animations qu'il fait dans des classes du secondaire. Quand il demande aux étudiantes qui ont déjà craint de rentrer seules chez elles, le soir, de lever la main, plusieurs le font. Quand il demande la même chose aux étudiants, les bras restent généralement bas. Et si un garçon dit qui ne comprend pas que les intentions des hommes qui abordent des femmes ne sont pas mauvaises, l'auteur jeunesse fait une démonstration. Il propose au jeune de se lever. Puis, il s'approche de lui, du haut de ses 6 pieds, 1 pouce et 380 livres. Souriant, il entre un peu dans sa bulle, en lui demandant comment il va. À tout coup, le jeune homme recule. Pierre-Alexandre lui demande s'il a mal agi, s'il s'est montré agressif ou insistant. Pas du tout. Pourtant, l'adolescent s'est senti mal à l'aise, non? Oui. Je trouve ça dommage, mais je pense que le message passe mieux quand c'est un homme qui l'exprime parfois, admet-il. Alors, à vous, messieurs. C'était « Des idées pour aider les garçons ». Un texte de Rose Aimée, Autonne T. Morin, paru le 24 septembre 2025 dans La Presse.
Texter au volant est une conduite dangereuse. Un texte de Luc J. Doucet, paru le 11 août 2023 dans le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick. Le fléau des personnes qui textent au volant semble prendre de l'ampleur à Dieppe et Moncton. Il ne se passe pas une fois lorsque je prends une marche ou bien que je roule en voiture sans que je ne rencontre des personnes qui textent au volant ou qui lisent leurs messages. Elles sont faciles à identifier, zigzaguant quelque peu, retardant les autres automobilistes lorsque le feu tourne au vert, accident ou accident évité de justesse. Tout récemment, il s'en est fallu de peu. Heureusement que j'étais vigilant et que je regardais dans mon rétroviseur, puisqu'une jeune dame qui me suivait en pitonnant allègrement n'avait pas remarqué que le feu avait changé au rouge. J'ai alors rapidement changé de voie en klaxonnant et elle a freiné juste à temps afin de ne pas emboutir une voiture. Ces personnes mettent la vie des automobilistes et des piétons en danger. Il semble que les campagnes de sensibilisation ne fonctionnent pas avec ces insoumis. Les forces policières se doivent d'appliquer rigoureusement la loi et ce, avec des opérations fréquentes et publicisé. C'était « Texter au volant est une conduite dangereuse », un texte de Luc J. Doucet, paru le 11 août 2023 dans le Moniteur acadien du Nouveau-Brunswick.